La grande matinale Le Mag, c'est une heure pour nous, rien que pour nous. Mao Drama va entrer dans le cercle, elle va nous causer des masculinistes ce matin. Et Alix Van Pé nous rejoindra aussi. Elle reçoit ce matin la chanteuse Mathilde Fernandez dans ses nouvelles têtes. À 9h30, vous retrouverez le débat du jour sur la dark romance, ce genre littéraire qui rencontre un succès hallucinant en librairie. Le désir amoureux excité par l'emprise et par la violence. Ma question est donc, la dark romance fait-elle du mal aux femmes? Oui ou non? Une autrice et un historien en discuteront tout à l'heure, mais tout de suite, le grand portrait.
France Inter. La grande matinale. Sonia De Villers.
Un fils unique peut-il écrire un livre sur sa mère? Voilà une sacrée question. Le petit roi peut-il s'oublier? Peut-il laisser sa place de nombril du monde à la femme qui s'est prosternée devant lui? Pascal Bruckner, romancier renommé, a déjà écrit sur son père. Il décide de consacrer un texte à sa mère, une femme écrasée, battue et humiliée. Croyez-vous qu'il en sorte un portrait de la dame? Oui, mais non, pas tout à fait, car c'est aussi un autoportrait de l'auteur. Ça oui, un autoportrait, que voulez-vous? Les fils uniques sont ainsi, plein de moi-je, mais aussi plein d'amour. Ils en ont tant reçu qu'ils sont prêts à en donner. Il le faut pour s'approcher aussi près de la vérité, aimer sans condition ceux qui nous ont aimés. Portrait numéro 100. Déjà 100 portraits, et ça c'est la joie de ce mercredi matin, c'est de se dire que c'est la 100e du grand portrait, et c'est une joie de la partager avec vous. Bonjour Pascal Bruckner.
Bonjour Sonia De Villers.
Alors, De Mère Inconnue paraît aux éditions Grasset, 12 ans après le livre que vous aviez consacré à votre père, où on découvrait un père à la fois, privé d'autorité, donc très autoritaire, fragile, donc extrêmement violent, un père qui cogne, un père qui aboie, un père qui agresse, un père qui insulte. Et c'est sur votre mère d'abord que tombent les coups. C'est à elle qu'il arrache les cheveux. C'est eux deux, en réalité, qui s'envoient valser toute la maison au visage.
Oui, c'est le souvenir que j'ai de mon enfance, c'est des périodes de calme et tranquillité avec ma mère quand mon père était parti parce qu'il travaillait au dehors, donc il était souvent en voyage. Et puis des périodes de scènes permanentes et qui ont duré jusqu'au tout dernier jour. C'est-à-dire que il n'avait plus d'autre moyen de se parler que de s'insulter. Et à la fin, c'était tellement effrayant que parfois je sortais de chez eux en larmes.
Ouais.
Tellement ils s'étaient rabaissés l'un à l'autre. Mais bon, c'est quand même mon père qui était le principal coupable.
Elle est morte avant lui. Et il ne l'a jamais regretté. Il n'a jamais regretté les coups ni les insultes.
Non, il a jamais, oui, il a jamais reconnu qu'il était quand même responsable de la dégradation de la santé de ma mère, parce qu'il expliquait qu'elle était folle et qu'il y avait un gène dans sa famille à elle qui avait provoqué cette maladie, l'encéphalopathie, puis une maladie de Parkinson. Et il n'a jamais exprimé le moindre regret.
Oui, parce que dans ce livre, Pascal Bruckner, vous racontez comment cette femme, et d'ailleurs c'est une histoire assez déchirante, avait intériorisé toute cette violence qu'elle recevait, comment d'une certaine manière elle estimait mériter, sans le dire, les coups qu'elle recevait, et comment en réalité c'est sa santé qui s'est dégradée. C'est son corps qui s'est détraqué.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ma mère me protégeait, c'est-à-dire qu'elle s'interposait entre mon père et moi quand mon père me giflait. Mais enfin, il faut relativiser. À l'époque, tous mes cousins, tous mes copains recevaient des baffes, des trempes, des coups de martinet. Ça n'était pas hors la loi comme ça l'est devenu plus tard, et je pense heureusement. Mais petit à petit, à mesure que j'ai grandi et que j'ai quitté la maison, ma mère n'a pas pris son indépendance, c'est-à-dire qu'elle n'est pas partie.
Non.
Et pour se révolter, elle a retourné la violence qu'elle subissait contre elle-même, elle est tombée malade. Et donc petit à petit, la maladie l'a poussée vers la mort. Et finalement, mon père s'est retrouvé avec une victime qui ne pouvait plus parler, qui était dans son lit d'hôpital.
Mais ce que vous racontez aussi, Pascal Bruckner, c'est que vous, en vous éloignant d'eux, vous avez contracté de sacrées maladies. Vous êtes tombé malade aussi.
Oui, je suis tombé malade effectivement entre 20 et 25 ans parce que c'était je cassais un tabou, je désobéissais à mon père qui voulait régir ma vie, et mes deux parents voulaient régir ma vie, mais chacun de ma mère,
différente.
Ma vie pulsionnelle, elle voulait contrôler absolument toutes mes de ma santé.
Votre sexualité.
Ma sexualité, oui.
Moi, je lis ça, elle a tout fait pour vous émasculer, non ?
Oui, absolument tout. Oui.
C'est ça.
Oui, elle voulait, en réalité, elle voulait m'entraîner avec elle dans un pacte de faiblesse. C'est ce que j'explique dans le livre, c'est-à-dire qu'elle pensait que j'étais, tout comme elle, condamné à une vie latérale, une vie marginale, que j'épouserais éventuellement une bonne petite catholique, on ferait des enfants, que j'aurais un petit boulot, mais que je serais toujours avec maman jusqu'au dernier jour et sans ambition démesurée. Et mon père, lui, c'était différent. Il voulait contrôler mes opinions politiques.
Pourquoi écrivez-vous, Pascal Bruckner, les fils ratent leur mère, plus encore les fils uniques, qui ne voient en elle que servante et consolatrice convoquée ou révoquée à volonté.
C'est parce que c'est l'histoire de ma vie. Hein. Ma mère me disait toujours « pense à toi ». Alors j'ai tellement pensé à moi que je l'ai oublié elle, jusqu'à ce que je m'aperçoive, quand elle est devenue très âgée et malade, qu'en réalité elle n'arrivait plus à se débrouiller toute seule dans la vie, et que c'était une femme fragile, tremblante et pauvre, parce qu'elle vivait d'une retraite de la fonction publique. Mais les fils uniques, effectivement, ont une tendance à tout ramener à eux, puisqu'on les a élevés comme les petits princes.
L'écriture est d'abord engendrement. Ce sont vos mots, Pascal Bruckner. Si j'écris ton histoire, tu deviendras ma fille après avoir été ma mère.
Oui, je crois que c'est vrai, c'est un peu ce que j'ai voulu faire, mais j'ai voulu rendre un hommage à une femme à côté de laquelle je suis passé, et qui se plaignait beaucoup avec moi, mais en fait je ne l'écoutais pas, justement parce qu'elle se plaignait, je lui disais...
Mais est-ce que vous l'écoutez dans ce livre ? Je vous pose la question parce que c'est un livre où vous parlez beaucoup de vous, beaucoup, beaucoup, beaucoup de vous. C'est presque un autoportrait.
Oui, c'est un autoportrait. C'est un autoportrait à travers elle.
C'est pas l'acte définitif du fils unique qui voulait faire le portrait de sa mère.
Sans doute, et qui
fait un autoportrait.
Sans doute, vous avez raison. Non, mais je le reconnais. Je le reconnais, mais c'est aussi une manière de me réconcilier avec elle. Et puis, je crois que c'est plus profondément une manière de réconcilier mes parents les uns avec les autres. En fait, j'aimerais, s'il existait une salle d'attente post-mortem, j'aimerais leur parler des journées entières et leur dire, mais pourquoi vous avez détruit votre vie à vous entretuer au lieu d'essayer de profiter des jours qui vous restaient. Mais vous savez, c'était deux guêpes dans un bocal, deux guêpes qui s'entretuent, et ma chance a été d'échapper à cette malédiction. Alors j'y ai échappé très doucement, parce que on reproduit spontanément ce que vos parents vous ont appris à faire. On est à la fois le père et la mère dans la même personne, et c'est peut-être pour ça que c'est aussi un autoportrait, parce que j'ai essayé de comprendre pourquoi je m'étais évadé de ce couple pathologique et infernal.
Acte fondateur de ce couple pathologique et infernal. Il est situé bien avant votre naissance, enfin un peu avant votre naissance. Cet acte fondateur, il se déroule pendant la guerre. Votre père est travailleur volontaire en Allemagne.
Français, voici des nouvelles de nos travailleurs en Allemagne. S'adapter à toutes les situations, n'est-ce pas là notre qualité maîtresse ? Nos compatriotes sont devenus charrons. Mécanicien dentiste, typographe, ou même conducteur de trolleybus.
Il n'y a pas eu que le STO, il n'y a pas eu que le service du travail obligatoire, et je l'ignorais, il y a eu aussi des Français volontaires pour aller servir la cause en Allemagne. Des Français sympathisants du Troisième Reich, sympathisants du régime nazi, admirateurs d'Hitler, prêts à mettre leurs mains, leurs bras et leurs forces de travail au service de cette machine, puisque les hommes en Allemagne et en Autriche sont partis combattre. C'est le cas de votre père.
Oui, alors mon père est parti volontaire parce que dès 1939, alors je l'ai appris par un de ses camarades de classe que j'ai rencontré il y a 10 ans, qui est mort entre-temps, il était fasciné par la puissance militaire allemande, comme d'autres étaient fascinés par la puissance de la Russie bolchevique, à une époque où les démocraties paraissaient faibles et condamnées. Et donc mon père est parti en Allemagne en 1942, il a travaillé jusqu'en mai 1942, 1945, enfin jusqu'à ce que l'armée rouge, après il était à Vienne, arrive aux portes de Vienne, et là il s'est caché pendant presque une année entière dans le Fort Albert, qui était une région administrée par la France. Mmh. Où il s'est dit qu'il avait plus de chances d'échapper aux recherches de la police française que...
Il a réussi à échapper.
Et il a réussi parce qu'il est revenu, je crois, en novembre 1945. Les passions étaient apaisées. On avait fusillé et emprisonné un certain nombre de gens.
Il n'a pas été inquiété.
Et il n'a pas été inquiété grâce à des subterfuges, je ne sais pas comment.
Il a travaillé pour Siemens.
Voilà.
Il a travaillé pour Siemens.
Oui, oui.
Ça aussi, c'est une histoire.
Oui, qui fabriquait des appareils pour l'armée allemande.
Voilà. C'est-à-dire qu'il a accompli des visites de contrôle dans les camps de concentration.
Oui, à Dachau. Oui,
à Dachau.
Oui, ça, il m'a raconté.
Pour être
oui.
sûr que le matériel était conforme.
Absolument, oui, oui. Parce qu'il était. Comme on est quand même d'origine allemande, il était très soigneux, méticuleux dans son travail, si j'ose dire. Mmh.
Mais, ça non plus, il ne l'a jamais regretté.
Alors, oui, c'est compliqué. Oui, il a toujours vécu dans la. C'est-à-dire qu'en réalité, pendant 20 ans, il a eu une période libérale. Ça correspondait avec une certaine prospérité financière, parce qu'il travaillait beaucoup. Donc, il s'est mis à voter à gauche, il a même voté communiste. Il lisait Le Monde, Le Nouvel Obs. Et puis, à la fin de sa vie, la dèche revenant, il était couvert de dettes. Le vieux fond de sauce antisémite et pro-nazi est remonté, mais comme un renvoi. Et à la fin de sa vie...
Quand il allait mal, je vous cite, il renchérissait sur la haine des Juifs. Les détestait, lui faisait du bien. C'était sa soupape psychologique. Il aimait répéter les horreurs que Céline disait de Proust. Je cite, il écrit en franco-yiddish tarabiscoté, c'est parce qu'il est juif et hanté d'enculerie.
Oui, c'est la seule phrase de Proust. Enfin, il en citait deux, mais c'était l'une des seules phrases de Proust qu'il connaissait, parce que par ailleurs, il n'avait pas lu. Mais oui, les dîners à table, les déjeuners, les petits déjeuners, les dîners, quand j'étais enfant, c'était le référent juif en permanence. Et la réaction que mon père a provoquée en moi, c'est que je me suis dit, au fond, ces juifs qu'il déteste doivent être très sympathiques, puisqu'il les vomit. Et ensuite, pour son propre malheur, mon pauvre papa m'a vu assimiler à l'intelligentsia juive, puisque je m'appelle Bruckner, j'ai travaillé avec Finkielkraut, avec BHL, avec Glucksmann, et ça l'a rendu littéralement
malade.
On vous
a pris pour un intellectuel juif.
Ah ben ça continue.
Vous, le petit catholique,
oui.
Le petit catholique baptisé, communié, confirmé, qui a même été béni à Lourdes.
Oui, oui, j'étais blond, une fois en Autriche, quelqu'un m'avait dit « Du bist ein Jude, tu es un juif » en regardant mon nez, et ça avait mis mon père dans une fureur folle, parce que sa propre progéniture retombait dans le peuple qu'il maudissait. Donc tout d'un coup, il y avait un tête-à-queue monstrueux dans cette famille, il n'y avait plus de logique, et ça a été le malheur de mon père.
Il y a eu un autre tête-à-queue, c'est une femme avec qui vous avez vécu, avec qui vous avez eu un enfant, qui était elle-même juive, c'est-à-dire que, oui, vous êtes allé exactement là où votre père n'avait que haine et que mépris.
Oui, oui, tout à fait. Et à la fin de sa vie, la grande inquiétude de mon père, c'est de savoir si ma fille, donc sa petite fille, était vraiment juive, s'il n'y avait pas eu un écart, s'il n'y avait pas eu un adultère qui ferait qu'en fait elle n'était pas vraiment juive. Mais bon, Dieu merci, il a quand même passé là-dessus et il lui a donné l'affection qu'elle méritait. Mais c'est c'est le fond de sauce de la bourgeoisie catholique de cette période, de l'avant-guerre et de l'après-guerre.
Alors, vous découvrez seulement maintenant, Pascal Bruckner, que votre mère, je l'ai dit, soumise, humiliée, qui en réalité a été effacée, écrasée par ce paternel et ses obsessions, en réalité, elle aussi, elle est partie en Allemagne, elle aussi, elle était volontaire. Elle aussi, elle s'est mise au service du Troisième Reich. Vous l'ignoriez ?
Oui, alors j'ignorais. Mon père me l'avait dit sur son lit de mort, je n'avais pas cru. Et j'en avais parlé avec des cousines qui m'ont dit « Non, c'est un mensonge, il veut la salir ». J'ai quand même fait une enquête. Et les premiers éléments de l'enquête, au Centre d'Histoire de la Défense de Caen, étaient négatifs. Et puis j'ai insisté, et finalement j'ai eu tous les documents. En 42, en juin 42, elle vient d'avoir 23 ans, elle part en Allemagne, chez Siemens, et elle est secrétaire. Et alors, je suis étonné parce qu'elle a toujours très mal parlé l'allemand, mais elle a eu tellement honte après qu'elle me l'a caché. toute sa vie, même si elle était antisémite. Elle disait, c'est les Juifs qui ont tué le Christ, une phrase d'ailleurs qui a été reprise par Mélenchon, les Juifs sont tout puissants, etc. Mais elle a...
Mélenchon, qui toute la semaine a examiné des non-Juifs. Juif, pas juif, voilà, ça sonne juif, ça sonne pas juif.
Oui.
C'est exactement ce que vous avez vécu. Bruckner, est-ce que c'est juif? Juif? Est-ce que ça sonne juif? Est-ce que ça sonne pas juif?
Dès que j'avais un camarade, mon père dégustait le nom. Il disait, mais ça, dis donc, c'est un faux nom français, ça. Il y a de l'allemand ou du polac derrière. C'est pas possible. Je disais, bah, papa, déjà, notre nom, c'est pas clair. Il disait, non, nous, on n'a pas d'umlaut, on est vraiment des vrais Aryens. Bon, bref.
Et donc, ma mère
a travaillé en Allemagne, est revenue. Et je pense qu'elle m'a souvent dit, on est en 39, en 40, elle voit les soldats français en haillons sur les routes de l'Exode, qui enlèvent leur uniforme militaire, et elle voit l'armée allemande qui défile aux Champs-Élysées, des hommes jeunes, beaux, forts. Elle est tombée amoureuse de la force, comme beaucoup de gens à cette époque-là, malheureusement, et donc elle est partie en Allemagne, et elle est revenue au moment où ça commençait à sentir le roussi pour le Troisième Reich, c'est-à-dire à l'automne 43, et ensuite elle se cache comme elle cache ses opinions, elle n'a pas été inquiétée pendant la guerre, ni après, mais si elle a épousé mon père, c'est que quand même ils partageaient ensemble une même croyance dans la malédiction de mosaïque, si j'ose dire, du peuple juif. Mais à la fin de sa vie, ça c'est intéressant, elle se prend d'amour pour le cardinal Lustiger.
Oui. Le cardinal Lustiger, faut expliquer qui c'est, un cardinal, un enfant du Vatican, un cardinal catholique. En réalité, Monseigneur Lustiger est juif.
Était juif, voilà. Et donc, il était conforme à l'enseignement des évangiles. C'était un juif qui s'était converti à la vraie foi. Et elle allait tous les jours à Notre-Dame. Elle était tombée un peu dans la bigoterie. Et mon père disait, mais t'inquiète pas, un juif ne devient jamais catholique. En réalité, c'est une dissimulation.
Ça, c'est l'obsession des antisémites.
Oui, c'est l'obsession des antisémites.
Il y a toujours des juifs dissimulés quelque part.
Oui, c'est ça. Mais donc, elle a quand même tenu une vie entière dans un secret. Pas une fois, elle n'a voulu me le révéler.
C'est pour ça que vous avez
intitulé
ce livre.
Et donc, elle s'est épuisée dans une lutte stérile contre une brute. Au lieu de divorcer, j'ai supplié ma mère toute sa vie de tromper mon père, de prendre un amant et
de
partir.
Elle n'est jamais partie.
Elle n'a jamais osé, par amour des convenances, alors que ses frères et sœurs étaient beaucoup plus libres. Donc, c'est le mystère de la soumission. C'est le mystère que j'interroge. Pourquoi une femme accepte-t-elle d'être battue et humiliée par un homme jusqu'au dernier jour ?
De mère inconnue, ça paraît chez Grasset. J'étais très heureuse que ce soit vous, Pascal Bruckner, le centième grand portrait de la grande matinale.
Merci Sonia de Villers, moi aussi. Très heureux et très touché. Merci.
Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
Personal Jesus, c'était Johnny Cash et on aime les journées qui commencent par Johnny Cash, surtout quand Johnny Cash reprend Depeche Mode avec sa guitare folk. C'était très beau et c'était en 2002, juste avant la disparition de l'homme en noir. Vous êtes dans le Mac de la Grande Matinale, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Il y a déjà des pianos et tout ce qu'il faut pour faire de la musique dans le studio. À 9h45, c'est Mao Drama qui arrivera. Bonjour Mao.
Bonjour Sonia.
Ce matin.
Aujourd'hui, on va parler des masculinistes qui sont devenus une telle menace que maintenant ils sont considérés comme un truc terroriste.
Bien, très bien.
Ça va être good mood.
Très bien. Commencez à en parler d'ailleurs des masculinistes dès le débat. Alix Van Pay, bonjour.
Bonjour.
Votre nouvelle tête aujourd'hui.
Alors c'est Mathilde Fernandez, une chanteuse caméléon qui a touché au rock, à la techno-pop et qui revient avec un album minimaliste piano-voix.
Voilà, d'où le piano dans le studio. On a hâte. À tout à l'heure, il est 9h29. Vous êtes sur France Inter et c'est le débat du jour.
Alors, il est comment ?
Très intense. Très brillant. Vous êtes un maniaque du contrôle ?
Je m'applique à garder le contrôle dans tous les domaines.
Ça doit être un peu lassant.
Vous devriez m'éviter.
Pourquoi êtes-vous si distant ?
J'ai eu une enfance difficile. C'est tout ce qu'il y a à savoir. J'ai des goûts très particuliers. Vous ne pourriez pas comprendre.
Alors initiez-moi.
La dark romance, des histoires d'amour sur fond de violence plus ou moins intense. Succès hallucinant en librairie. Certains textes flirtent néanmoins avec la limite, hein, comme en témoigne la polémique actuelle autour d'un livre auto-édité qui s'appelle Corps à cœur, on en reparlera, qui est accusé de faire l'éloge de la pédocriminalité. Alors, ces livres banalisent-ils les déviances et les relations toxiques ? Sont-ils au contraire un espace de plaisir transgressif pour les lectrices ? Dark romance fait-elle du mal aux femmes ?
France Inter, la grande matinale, Sonia De Villers.
Et on en débat ce matin avec Joyce Keaton, bonjour.
Bonjour.
Autrice de dark romance, dont le dernier livre Toxique, tome 1, est paru en janvier chez Hugo Éditions. C'est une maison d'édition qui est très en pointe hein, sur ce genre littéraire. Je précise que Toxique a d'abord été publié en auto-édition et que vous avez vendu 150 000 exemplaires. Ça donne une idée du succès. 150 000 exemplaires aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup. Yvan Jablonka est face à vous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, vous êtes écrivain, vous êtes auteur de cette somme parue en septembre aux éditions du Seuil qui s'intitule « La culture du féminicide » et d'un passionnant article qui est paru dans la revue « La vie des idées, dark romance et culture du féminicide ». Peut-être qu'on commence avec l'un et l'autre d'ailleurs, hein, pour redéfinir ce genre, en tout cas ce que vous y mettez. Yvan Jablonka, je vous cite, « Ce genre littéraire met en scène des histoires d'amour où une jeune femme s'éprend d'un homme puissant, au charme vénéneux, souvent un hors-la-loi qui l'a séquestré. Il y a du danger, de la violence et du sexe. » C'est comme ça que vous résumeriez la dark romance ?
D'abord, je voudrais rendre hommage au talent de ces autrices. Ouais. Comme vous avez dit, il y a toute une génération d'autrices et puis elles ont réussi à séduire un lectorat très nombreux.
Énorme. Voilà.
Et je voudrais saluer, il y a quelque chose qui se passe d'un point de vue littéraire et éditorial. J'ai essayé historiquement, sociologiquement, de replacer la dark romance dans tout un courant de pensée. Il y a trois aspects, je crois. Il y a d'abord un aspect de littérature érotique où les femmes sont soumises, et ça renvoie à ou à Pauline Réage dans Histoire d'eau. Il y a un aspect de romance populaire, où en gros c'est une Cendrillon qui, si elle est courageuse et un peu obéissante, elle va réussir à profiter d'une ascension sociale pour bénéficier d'une vie de luxe.
Ouais.
Et le troisième aspect, c'est celui du fantasme ou de la transgression, le désir, la sexualité, qui sont toujours conjugués avec le danger. Et c'est là qu'à mon avis, la dark romance rejoint la culture du féminicide, c'est que ces femmes sont toujours en situation de mort. Elles savent très bien explicitement qu'elles risquent d'être tuées. L'homme dont elles s'éprennent et dont elles sont les victimes à la fois, va par exemple les enfermer dans une cave ou graver ses initiales sur leur ventre ou mettre un couteau sur la gorge en disant « je pourrais te tuer ». Et en fait, ce que le livre met en scène, c'est que les hommes violents sont sexy et que une belle histoire d'amour, ça comporte toujours un peu des violences et puis des tentatives de meurtre. Et en plus, les femmes aiment ça.
Joyce Keaton, on peut prendre l'exemple donc de Toxique, hein, la relation amoureuse d'une jeune femme avec un chef de gang. Je vous cite, dans ce monde où la violence est une langue et le désir un poison, Elena devra choisir fuir ce qu'elle devient ou se laisser consumer par des sentiments toxiques. La toxicité, pour vous, c'est un moteur à fantasmes ?
Oui, je pense clairement que c'est un moteur à fantasmes, en effet. Il faut aussi comprendre que les victimes des féminicides sont des femmes, en grande majorité, hein, et les agresseurs sont des hommes, à 97%.
Là, on parle dans la vie, hein,
voilà,
dans la vraie
exactement.
Vie, hein, dans le réel.
La manière dont finalement la littérature là, induit un petit peu des relations violentes, c'est très représentatif, et c'est aussi une manière pour les lectrices de dark romance, mais aussi les autrices de dark romance, de se réapproprier la violence, d'en faire quelque chose qu'elle jauge, qu'elle dirige elle-même.
C'est intéressant, c'est-à-dire on est conscient de cette violence, des risques qu'elle comporte, mais on se l'approprie, on en fait un objet.
Ça, bien sûr que c'est un objet de fantasme, puisque la société est violente. Voilà, donc forcément que on a été du coup amené à fantasmer ce genre de relation, même si encore une fois, hein, la fiction et la réalité sont vraiment deux choses totalement différentes, et ne pas imaginer que les lectrices puissent faire la différence, c'est un peu les infantiliser.
Néanmoins, Joyce Keaton, en exergue de votre propre livre, vous appelez les lectrices à faire attention à leur sécurité émotionnelle. Je vous cite, ce texte explore des thématiques difficiles et sensibles telles que le viol, les agressions sexuelles, la torture, la manipulation psychologique, la pédocriminalité, la prostitution, des scènes de sexe explicites, la violence physique et morale, le meurtre, la drogue, l'addiction, la dépendance émotionnelle, etc. etc. Enfin, il y a une liste de courses impressionnante.
Oui, parce qu'en fait, c'est hyper important que les jeunes lectrices ne lisent pas. Donc nous, on a fait en sorte avec ma maison d'édition.
Comment ça que les jeunes lectrices ne lisent pas?
Moins 18 ans, pour moi, c'est pas. Enfin, nous, les livres ne sont pas. C'est marqué sur le livre. Hein, coup, c'est pour les moins de 18 ans. Le livre en librairie, il est sous blister. C'est indiqué sur la couverture. Ouais. Donc, en fait, on essaye vraiment d'éloigner le jeune lectorat de ce genre de littérature.
Yvan Jablonka, pour vous, c'est un danger pour le jeune lectorat?
Je ne parle pas en termes de danger, je ne parle pas en termes de... Certainement pas de censure, ce n'est pas ça la question. La question, c'est de savoir ce que la société tolère et excuse. Je vois qu'il y a...
C'est-à-dire, vous n'êtes pas dans la position de dire aux jeunes filles ce qui est bon ou mauvais pour elles comme lecture.
De toute façon, j'en discutais avec mon libraire récemment. Elle racontait que c'est les mères qui achètent de la dark romance pour leurs filles de 11 ou 12 ans. On en est là. Bon, moi, j'ai pas de jugement là-dessus. En tant qu'historien, je m'intéresse à ce que la société tolère ou excuse. Je vois par exemple qu'on ne supporte plus dans un James Bond la culture du viol qui consiste à par exemple frapper une femme ou l'embrasser de force alors qu'elle a dit non 10 fois. Donc je vois bien que maintenant la culture du viol c'est quelque chose qu'on ne supporte plus. Ce que j'observe c'est que il y a une forme de tolérance diffuse vis-à-vis de la culture du féminicide qui se marque dans la dark romance, mais aussi dans les polars ou les thrillers ou les séries télé ou n'importe quelle série télé qui se respecte commence par une femme qu'on va retrouver massacrée, traiter son corps comme un déchet. D'ailleurs, c'est le début d'ailleurs de Twin Peaks. Hein, c'est exactement comme ça que ça commence. Bref.
Bah, Twin Peaks, ça a 40 ans
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que Twin Peaks a inventé un genre à cet égard. Donc, je ne suis pas là pour faire le vieux daron qui dit ce qu'il faut
mais
faire.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, Yvan Jablonka, parce que Joyce Keaton voyait bien que l'idée n'est pas de se dire les jeunes lectrices sont en danger. L'idée, c'est d'examiner ce qu'une société va mettre en valeur et va glamouriser. Hein, c'est un terme que vous utilisez, Yvan Jablonka. C'est le danger de rendre ça glamour. Est-ce que, pour vous, il y a un problème à rendre ça glamour ? Cette liste de courses énorme, hein, dans laquelle il y a meurtre, violence, drogue, addiction, dépendance émotionnelle, etc.
Alors, en effet, ça glamourise, je ne peux pas dire le contraire. Hein, dans la Dark Romance, on est quand même vraiment sur les clous du cliché du bad boy standard. Après, dans la littérature... En fait, la différence avec la dark romance ou avec d'autres genres littéraires, c'est qu'on est quand même vraiment sur une partie assez fantasmique de la sexualité. Donc c'est un peu un genre un petit peu délicat, un peu comme la new romance qui va du coup explorer la sexualité, mais de manière un peu plus soft là-dessus. Mais c'est vrai que dans tout ce qui va concerner un petit peu le fantasme féminin, on est des fois un petit peu border sur ce qui peut se faire, et je l'entends et je le reconnais. Maintenant, c'est s'il y a un tel essor de la dark romance, c'est que ça parle forcément à beaucoup de monde. Et je pense aussi que petit à petit, la société, quand la société évoluera sur la violence, la dark romance aussi. Mais c'est déjà le cas, puisque en fait, initialement, il y avait beaucoup de violence, beaucoup de viols dans les dark romances. Ça se fait quasiment plus. Même si on le voit, bon, c'est vrai que toxique, c'est aussi un petit peu à part, mais généralement, là, on sent qu'on est en train de s'éloigner de ces schémas de violence sexuelle là pour aller du coup dans des schémas plus classiques de sexualité consentie, même si l'univers va être très violent, voilà, avec peut-être un homme violent.
Et vous, justement, vous constatez ce paradoxe, Yvan Jablonka, c'est-à-dire d'un côté un mouvement très puissant du côté des jeunes générations et des femmes pour dire je suis maître de mon corps, je suis maître de mon destin, je suis maître du genre d'amour que je veux vivre et de l'image que je donne de moi, et en même temps ce succès incroyable d'histoires où les femmes sont dominées et asservies par un homme qui les écrase.
Oui, on peut dire que la dark romance, c'est le anti-MeToo, c'est-à-dire c'est vraiment les valeurs complètement opposées à MeToo. Cependant, je suis parfaitement d'accord avec Joyce Keaton, il y a un aspect de fantasme personnel et de transgression. On peut parfaitement, à main droite, adhérer aux valeurs politiques et civiques de MeToo, et à main gauche, avoir un certain nombre de fantasmes, et il n'y a aucun problème
intime,
avec cela. Bien sûr, il n'y a aucun problème avec cela.
C'est la différence entre la sphère politique et la sphère intime.
Oui,
là-dessus que se heurte l'historien.
Disons que la structure de nos désirs est très différente de nos adhésions politiques, et c'est très bien comme ça. Maintenant, je pense que c'est pas simplement des fantasmes privés ou des fantasmes personnels. Je pense que ce sont aussi des fantasmes collectifs, et la dark romance nous propose ce que la société fantasme pour les femmes. Et c'est là que c'est intéressant pour le socio-historien que je suis, c'est-à-dire qu'est-ce que...
Et un peu inquiétant.
La manière dont la société fantasme sur les femmes. Et il y a un très nombreux... Il y a beaucoup de productions culturelles, et cela depuis des siècles et des siècles, qui présentent les femmes comme des cadavres en puissance, des objets qu'on peut violer, démanteler, détruire. Et ça, la dark romance n'en est que la pointe la plus contemporaine avec les séries télé. Moi, c'est ce que je viens expliquer. En ajoutant que, à mon avis, et ça c'est l'écrivain qui parle, on peut créer autrement. On peut inventer une contre-culture du féminicide en proposant, non pas toujours les mêmes clichés, mais des formes nouvelles qui viendraient représenter le féminicide, mais sans complaisance, sans voyeurisme, sans glamourisation.
Et vous avez l'impression, Joyce Keaton, d'être en fait un pur produit de ce qui vous a précédé, c'est-à-dire à la fois vous avez l'impression de mener une sorte de révolution en librairie, une sorte de révolution littéraire, c'est quelque chose de très nouveau dans la dark romance, et puis en même temps, d'être le pur produit de schémas qui se répètent de génération en génération.
Alors oui, en quelque sorte, en effet, ça résulte. Tout ce qui se passe en ce moment résulte de la société patriarcale, mais aussi de la manière dont les femmes reprennent ça, même si ça ne correspond pas forcément à ce qu'on aimerait en politiquement correct. On en est là, si on en est là, ce n'est pas pour rien, et c'est aussi une manière pour nous de nous faire entendre. Je pense que c'est la conséquence de la violence dans la société. Et d'ailleurs, ça se prouve parce que il y a des pays, par exemple, où la dark romance n'aura pas cet impact-là.
Ouais. Je voudrais qu'on dise quand même un mot sur cette polémique hein, depuis une semaine, ce corps à cœur, cet ouvrage auto-édité. Alors, je ne l'ai pas lu. Je ne sais pas si vous ne l'avez pas lu non plus. Yvan Jablonka, vous l'avez lu. Voilà. Donc, c'est un texte auto-édité, mais qui est remonté jusqu'au gouvernement, tellement il a choqué. Et il est accusé d'encourager la pédocriminalité. Est-ce que vous avez quelque chose à en dire, Joyce?
Oui, bien sûr. Alors, en effet, là, quand on débat, bien entendu que je retire évidemment ce livre de l'équation. Là, ce livre a éclaboussé hein, totalement le monde de la dark romance, alors qu'on est extrêmement loin, mais là vraiment très très loin, et je le dis, j'espère qu'on m'entendra, de ce qui représente la dark romance. Alors bien sûr qu'il y a des dark romances qui vont être très trash, mais comme dans le polar, on va partir du Freda McFadden ou Maxime Chatham, la dark romance c'est la même chose, on va partir sur des dark romances qui sont très soft.
Il y a encore plus dark que Maxime Chatham.
Mais par contre, là, c'est vraiment un autre genre qui est innommable.
Conclusion, Yvan Jablonka.
Disons qu'il y a toujours une structure de pensée qui est identique. C'est toujours une jeune femme fragile livrée à un gang et à un psychopathe cruel et sadique dont elle va tomber amoureuse. Donc, il y a toujours des structures qu'on retrouve. Maintenant, Joyce Kitten disait tout à l'heure quelque chose qui me paraît capital, c'est que ça peut être aussi considéré pour les lectrices comme un apprentissage de la vigilance, faire attention à ce qu'elles-mêmes ne subissent pas ce type de violence dans leur vie quotidienne. Et il y a des psychologues qui ont montré que lire de la dark romance, c'était aussi une manière de s'immuniser contre de possibles violences. Donc, le patriarcat ici, les valeurs de MeToo là, et c'est peut-être ça qui fait toute la force de la dark romance.
Yvan Jablonka, historien, écrivain, auteur de la culture du féminicide. Joyce Kitten, merci d'être venu au micro de France Inter. Toxique, tome 1 chez Hugo Édition. Merci à tous les deux, vous restez avec nous dans un instant. Mao Drama et Alix Van Pay avec sa nouvelle tête.
Je mettais des phases B dans ma chambre, comme si c'était planète rap. Même les murs ils en avaient marre, mais j'avais des trucs à dire. J'avais les émotions, mon cœur j'avais de la peine au fond. Je rappais avec la veine au front. Depuis j'ai grandi, nouvelle douleur sous les habits. Je serre les dents, les canines, je le fais de façon mécanique. Tellement c'est fluide, ils croient que c'est facile. Quand y'a l'amour, y'a la magie. La musique c'est que pour la famille. Je dis jamais ça va pas, je dis c'est la vie. Rendez-moi la France de Mélanie. 2006, j'ai pleuré pour un penalty. 20 ans plus tard, j'ai d'autres sortes de problématiques. Je dis jamais ça va pas, je dis c'est la vie. Rendez-moi la France de Mélanie. 2006, j'ai pleuré pour un penalty. 20 ans plus tard, j'ai d'autres sortes de problématiques. J'ai pas de lunettes de soleil. J'ai rien à cacher. Ni la tristesse, ni le manque de sommeil. J'suis venu cracher ce que j'ai dans l'abdomen. J'suis sincère, j'suis pas malhonnête. On grandit, on les jette pas nos rêves. Et Youssef il tient sa promesse. C'est la famille avant l'oseille. Let's go, let's go. J'suis pas au studio comme à l'usine. Si je me sentais moins seul, j'ferais sûrement pas de la musique. Et tu brilles, tu brilles, tu brilles. J'écoute l'amour, j'écoute Pacifique et j'écoute Extra Lucide. J'dis jamais ça va pas, j'dis c'est la vie. Rendez-moi la France de Mélanie. 2006, j'ai pleuré pour un penalty. 20 ans plus tard, j'ai d'autres sortes de problématiques. J'dis jamais ça va pas, j'dis c'est la vie. Rendez-moi la France de Mélanie. 2006, j'ai pleuré pour un penalty. Plus tard, j'ai d'autres sortes de problématiques.
Arrive David Trezeguet. Il a évité le regard de Buffon à Trezeguet, les yeux fixés sur le ballon. David, oh, c'est la barre! C'est pas vrai! C'est pas vrai, c'est la barre!
2006, Asfar Chamsi avait 8 ans et nous un peu plus. Mais on a aussi pleuré pour un pénalty. Allez, la chanteuse sera sur scène au moment du Printemps de Bourges, le 16 avril prochain, pour défendre son nouvel EP. Il est 9h46 sur France Inter. Mao Drama est avec nous. Mao, le gouvernement va appliquer les dispositifs antiterroristes au site masculiniste.
Absolument, et j'ai vraiment une pensée émue pour tous les agents de la DGSI qui avaient déjà pas que ça à foutre avec les djihadistes, les attentats politiques, et maintenant ils vont devoir interrompre leur repas de famille en mode oh, « excuse-moi chérie, c'est le travail !» Allô, c'est une mise en scène. Allô, un déséquilibré avec un couteau? Non, un puceau qui veut faire sauter le planning familial? Désolé bébé, le devoir m'appelle. Avant, le monde, il était sexiste, mais au moins, on le revendiquait pas. Maintenant, les gars, ils disent fièrement qu'ils aiment pas les meufs, comme s'ils parlaient de la coriandre. Ils sont un peu là genre, j'aime pas tellement les meufs. Je trouve que c'est un peu le goût de lessive. Je préférais qu'elles meurent. En fait, c'est vrai parce que, mais c'est vrai parce que pour ça, ils s'organisent. Récemment, par exemple, ils ont saturé les lignes téléphoniques des appels d'urgence pour les femmes battues. Mais imaginez, on va au bout du concept. Ça ressemble à quoi un monde où il y a que des hommes, que des masculins? Ça ressemble à quoi leur soirée échangiste? Genre, ils font quoi? Ils se font des bisous et ils se font genre, je suis pas pédé, d'accord? Après, leur backroom, qu'est-ce qu'ils font? Peut-être ils sucent des haltères? Je sais pas, parce qu'ils adorent le sport. Je pense qu'ils adorent le sport parce que c'est beaucoup plus facile de se muscler les deltoïdes que de se muscler le cerveau. L'antiféminisme, il est en vogue parce que c'est un outil de mobilisation politique et émotionnelle extrêmement puissant pour les jeunes hommes par l'extrême droite. En fait, pour qu'ils aillent voter, il faut pas parler à leur intelligence. Il faut tout simplement leur dire « Tu es supérieur à ces dindes. Tu as des attributs génitaux mous. » Puis dur. Et elle, pas. Tu veux pas que ça change? Alors vote, sans lire les Astérix. Et pourtant, les Astérix, elles disent un truc important. Elles disent, on va niquer les services publics, on va contrôler l'État, on va détruire les droits sociaux, on va servir les intérêts des plus riches et construire un ministère pour le racisme. Le masculinisme, ça marche aussi, évidemment, parce que c'est un business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des chefs d'entreprise qui se sont dit, moi, ma cible, c'est les gens qui ont un problème de misère sociale et sexuelle, et ils ont besoin que des jeunes hommes paient des formations, de draguer dans la rue parce que t'es pas un pigeon, t'es un faucon.
Classe.
Elle a fait le faucon.
Et ceux qui mettent dos à dos le féminisme et le masculinisme, non, le féminisme ne tue pas tous les trois jours. Même nos ripostes, elles sont trop mignonnes. Genre, vous nous tuez? Et on colle des affiches. Oh, chippie, elle a dessiné sur les murs. Et même ça, il les arrache. Alors que jamais on verra un true crime inspiré de faits réels en mode affaire sensible. Dans l'épisode d'aujourd'hui, comment une jeune femme bien sous tout rapport a-t-elle pu se radicaliser en tombant un jour sur le second sexe jusqu'à attaquer Eric Ciotti avec un womanizer? Jamais les policiers iront sur place pour interpeller une femme dans la rue et au milieu des gyrophares hurler dans un mégaphone « Posez ce sécateur, madame! On va parler à votre mari! On va lui dire que le slip porté trois jours d'affilée, posé sur le coin de la table, ça va dans le sac à linge sale! Calmez-vous, madame !» On va réussir à se défendre parce qu'on va réussir à prendre soin de nous grâce à un mot qui a été supprimé du dictionnaire mais qu'on a retrouvé. Ce mot, c'est la sororité.
Ah!
Yes!
Ah. Et le second sexe. Et les astériques. Moi, j'adore les chroniques de Mao Drama. Mao, vous filez à Bordeaux à la bientôt. Vous voulez pas qu'on
va féminer le 13 mars?
Allez, allez, le 13 mars. Tout le monde à Bordeaux. Il est 9h49.
La grande matinale sur France Inter.
Bonjour tout le monde, bienvenue. Eh ben, c'était l'heure de Nouvelle Tête. Et voilà. Ben, c'est Alix Van P.
Bonjour, bienvenue dans Nouvelle Tête. J'ai la joie de recevoir aujourd'hui une autrice, compositrice et surtout interprète de talent. Depuis ses débuts, elle a été tour à tour femme fatale, diva gothique ou créature futuriste. Bonjour Mathilde Fernandez.
Bonjour.
Vous auriez pu être photographe comme votre père, mais votre goût de la musique a été plus fort. À 4 ans, vous jouez déjà au piano. À l'adolescence, vous jouez du synthé dans un groupe de black metal. Cette fois, la suite l'a prouvé, vous touchez à tout. Vous vous formez au chant lyrique. Vous collaborez avec le groupe de rock La Femme. Vous dévalez les octaves sur de la techno-pop avec Ascendant Vierge. Et aujourd'hui, vous revenez à vos premières amours dans un album solo minimaliste, sobrement intitulé Piano-Voix. Allez, on commence par un live avec un extrait de votre morceau À l'infini.
Pour associer tous les vides, ma curiosité, embrasser en poignée toute l'immensité, me désoiffer des secrets, des mystères du monde entier. Ma curiosité, les
quel moment est-ce que vous avez découvert toute la puissance de votre voix?
Je pense en cassant les oreilles de mes parents. Non, parce que j'ai décidé d'apprendre à chanter un jour en voulant imiter la reine de la nuit. Alors, je passais des matinées comme ça avant d'aller à l'école à mettre la reine de la nuit.
Et ça donne quoi, par exemple?
Oula, alors là, c'est un peu tôt. C'est...
Eh bien oui, c'est une soprano colorature, donc elle est extrêmement haut. Et vous faites la même chose aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez chercher dans les aigus? Qu'est-ce que vous cherchez là-haut?
Je ne sais pas, je me suis dit que si j'arrivais là, peut-être que je pourrais tout faire. C'est pas vrai. C'est pas vrai, il y a plein d'autres registres qui ne sont pas forcément faciles à obtenir, à trouver. Quoi. Mais voilà, en tout cas, moi j'ai commencé... par le haut, après j'ai exploré le bas, et puis aujourd'hui un peu tout, j'ai plusieurs registres dans ma besace.
Et vous allez de l'un vers l'autre tout le temps. Vous êtes française, née à Nice, mais vous habitez depuis des années à Bruxelles. Qu'est-ce que vous avez trouvé à Bruxelles que vous n'avez pas trouvé en France?
Oh, alors je travaille quand même beaucoup à Paris, mais à Bruxelles, ce que j'ai trouvé, déjà peut-être un peu plus de calme que la capitale française, mais j'étais très intéressée. En fait, je voulais être metteur en scène au départ. Et à Bruxelles, il y avait des compagnies d'art vivant, entre danse et théâtre, qui m'ont beaucoup attirée. C'est pour ça qu'au départ, je suis partie là-bas, puis je suis restée.
Alors avant de sortir votre album Piano Voix dont on a entendu un extrait, vous avez chanté dans des festivals de techno, accompagné donc par Paul Seul, la deuxième moitié d'Ascendant Vierge. Pour donner une idée aux auditeurs, Ascendant Vierge, c'est ça, attention, ça réveille.
Ah ouais.
Et oui. Il est 9h53. La musique qui tabasse, ça vous détend?
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce que vous aimez là-dedans? Parce que vous êtes passé du métal à l'art techno.
Mais j'ai toujours aimé les extrêmes, en fait. Donc, musicalement, le côté très hard, hard music, hard techno. Même de l'eurodance. J'écoutais pas mal de l'eurodance quand j'étais petite. Et aussi des choses très douces. Mais dans les voix, par exemple, c'est les grosses voix qui m'ont toujours plu. Alors, Nina Hagen, Kate Bush... Et quand c'est triste, ça doit être très très triste, comme les textes de Mylène Farmer. Et quand c'est joyeux, ça doit être extrêmement, extrêmement joyeux. Voilà, donc c'est comme ça qu'on sort un album de piano-voix après avoir fait 5 ans de ce qu'on vient d'entendre avec Ascendant Vierge. J'ai besoin de temps en temps d'aller aux deux extrêmes.
Et justement, est-ce que cet album, après cette techno gonflée au BPM, c'était pour retrouver une forme de vulnérabilité ? Dans le piano-voix.
C'était déjà pour me reconnecter avec mon projet solo qui préexistait avant Ascendant Vierge et pour me resituer aussi artistiquement toute seule. Musique organique, piano, reprise de mes morceaux, parce que l'album piano-voix, ce sont des morceaux qui existaient déjà sous une autre forme et de les montrer de cette manière-là, de les tourner comme ça, de les présenter comme ça au public, ça me plaisait.
Alors dans cet album Piano-Voix, vos textes sont souvent très sombres. Il est question notamment de femmes coincées dans des oubliettes.
Tout au fond, tout au fond, tout au fond d'une oubliette. Je me suis enfuie tout au fond.
Il est question aussi de ténèbres, de bouquets de pierres. D'où ça vous vient cette noirceur? Vous regardez trop de films d'horreur?
Je sais pas, c'est comme ça. Quand je parle des extrêmes, c'est une espèce de poésie un peu gothique, de fantasmagorie sombre qui m'a toujours accompagnée, qui a toujours été présente depuis l'enfance. Moi, je préférais me déguiser en sorcière qu'en princesse, par exemple. Les films d'horreur très violents, non, mais les films bizarres, oui.
D'ailleurs, vous avez un goût pour le cinquième élément hein, qui figure parmi vos inspirations. Avec ce moment très célèbre, donc avec une chanteuse, tout le monde a les yeux rivés sur une cantatrice bleue extraterrestre qui ressemble à un poulpe, qui a un chant mi-humain, mi-robot. C'est l'heure maintenant de votre carte blanche. Vous avez proposé de nous interpréter une reprise du magnifique Regret, morceau de Mylène Farmer dont vous nous parliez, et de Jean-Louis Murat, sorti en 91. C'est à vous.
N'aie pas de regrets, fais-moi confiance et pense à tout, les non et l'indifférence. ce n'est pas de regret. Fais la promesse, tu sais que l'hiver et l'automne n'ont pu s'aimer.
Merci pour ce concert de chambre dans un studio. Merci beaucoup.
Merci. Alors, concert de chambre dans un studio, c'est joli.
Au-delà de la musique, vous avez beaucoup dessiné dans votre enfance. À quoi ça ressemble, vos dessins?
Ouh là là, ça fait longtemps que je n'ai pas dessiné. franchement, Tim Burton, quoi.
Mais c'est ça.
Toujours gothique, dark.
Oui, 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 mais totalement. Je l'embrasse.
Vous avez une communauté de fans en Russie. Comment est-ce que vous expliquez tout cet engouement qu'il y a autour de vous?
Parce qu'en Russie, je crois que les gens sont très proches de leurs émotions, très romantiques, très dramatiques aussi peut-être. Et par exemple, Mylène Farmer, qu'on vient d'entendre, c'est une immense star là-bas. Je pense qu'ils sont aussi francophiles. Il y a des artistes comme Patricia Cass qui sont très importants, eux, là-bas.
Et vous, y compris. Merci beaucoup Mathilde Fernandez d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous venez de sortir un album piano-voix. Belle démonstration de votre voix élastique sur des accords minimalistes comme ceux qu'on vient d'entendre. Le 27 mars, vous serez sur scène à Paris, à la Scala.
Merci beaucoup.
Merci Ali.